de la, du Pays de Galles, a existé aux côtés de leurs maris qui sont mineurs. Et les, vraiment, les problèmes qu'elles ont eus depuis la nuit des temps, soit on les traitait de vauriens et qu'elles n'étaient capables de rien faire, de ne pas éduquer leurs enfants correctement, etc. Et puis alors, coup de barre dans l'autre sens, elles sont devenues des mères exemplaires, mais rangées à la maison, qui n'osaient plus sortir. Et les jeunes femmes d'aujourd'hui ont commencé à ressortir et à découvrir autre chose le jour où leurs maris se sont mis en grève et qu'elles ont dû s'organiser, elles aussi, pour défendre leurs maris, gagner leur vie souvent à la place de leurs maris qui étaient en grève pendant de nombreux mois.
Et ce qui était aussi très intéressant, c'est que c'est de la grève qu'est venue cette envie de faire du cinéma et de représenter sa propre histoire. Donc là aussi, des femmes qui se mobilisent et qui mènent à bien un projet, même que, évidemment, que financièrement, ce n'était pas du tout évident. Rapidement aussi, un autre documentaire qui fait figure de documentaire très historique sur les suffragettes, sur le mouvement féministe en Angleterre, avec l'interview, entre autres, d'une féministe de 102 ans. C'était assez impressionnant.
Nous avons interrogé aussi Anne Anderson, qui est une Canadienne, qui elle a fait un film qui s'appelle, si je le traduis fidèlement de l'anglais, parce que la traduction française ne veut rien dire officiel, ça veut dire « Nous tenons pour notre sol ». Et ce sont des femmes des Philippines qui se battent pour obtenir la propriété de leur sol, comme l'a promis Cory Aquino le jour où elle s'est fait élire. Alors je m'étonnais qu'une femme canadienne fasse un film sur les Philippines en disant « Mais vous n'avez pas des sujets concernant les femmes canadiennes elles-mêmes ». Elle me dit mais non, ça les concerne aussi, parce que beaucoup d'argent sont investis dans des projet de développement par le Canada. Pour nous, c'est important de montrer aux gens à quoi est utilisé cet argent, et d'autant plus de leur montrer qu'il peut être utile à des projets de femmes, et que ce qu'elles font, comme elles s'organisent aux Philippines, peut aussi faire un peu tilt dans la tête des femmes des milieux les plus défavorisés au Canada, qui auraient aussi, elles, besoin de s'organiser pour défendre leurs conditions de vie. D'ailleurs, au Canada, elles ont des conditions de travail en tant que femmes réalisatrices ou techniciennes de cinéma qui sont très, très développées. Le Canada, depuis longtemps déjà, grâce à la pression du mouvement des femmes et par l'intermédiaire de l'État, a donné beaucoup de moyens aux femmes. Par exemple, il y a eu plein d'argent investi pour former des techniciennes de cinéma. Et comme me disait Anne Anderson, il ne se trouve plus une équipe de cinéma aujourd'hui dans laquelle il n'y a pas au moins une ou deux femmes techniciennes dans l'équipe de tournage. Il y a eu bien sûr plein de courts-métrages réalisés par les femmes noires, dont un a été primé, qui s'appelle Perfect Image,
fait par
par Maureen Blackwood, qui est anglaise.
C'est bien gentil. Alors justement, là, c'était toute une histoire sur la beauté, sur le fait d'être belle, toutes les questions qu'on peut se poser par rapport à ça. On doit l'avouer, ce n'est pas à ce film-là que nous aurions donné le prix.
Bon, parce que la plupart des courts-métrages de femmes noires portaient souvent sur le fait d'assumer en tant que femme noire la différence avec les femmes blanches et de se trouver bien dans sa peau avec les caractéristiques de femmes noires. Il y avait un court-métrage très très chouette et très drôle sur le fait d'assumer ses cheveux en tant que femme noire, par exemple, en film d'animation. Le Perfect Image, image parfaite, portait un peu sur la même histoire, était un peu long, mais portait sur le même principe que qu'on soit blanche ou noire, qu'on se mette les cheveux droits ou courts, ça revient au même assumant.
Et aussi un autre film tragique quand même, où des noirs se lavaient, des enfants noirs se frottaient pendant des heures avec du vim pour avoir enfin la peau blanche.
Il y a un film documentaire qui a reçu le premier prix du public en tant que long métrage documentaire et dont nous avons envie de vous parler parce qu'il est vraiment fantastique. Ce film s'appelle Cover Up, ou la face cachée de l'Iron Gate. Tout le monde a entendu parler de la vente d'armes à l'Iran faite par les Américains, dont les bénéfices juteux ont été versés ensuite à la Contra au Nicaragua, qui lutte contre le gouvernement du Nicaragua. Alors, ce film magnifique a été réalisé par Barbara Trent. Et c'est une histoire assez fabuleuse, puisque c'est un film qui, pour ceux qui l'auraient vu, ressemble dans son intention et dans sa forme à l'hôtel Terminus de Marcel Ophuls, qui était une enquête sur Barbie. Eh bien, Barbara Trent a réuni de nombreuses interviews qu'elle a elle-même effectuées sur toutes les personnes impliquées dans l'Iron Gate. Alors, bien sûr qu'elle n'a pas passé sa vie à s'intéresser à l'Iron Gate, comme elle le dit. Tout le monde croit que j'ai passé ma vie à ça. C'est pas vrai. J'ai pu m'appuyer sur un nombre important de chercheurs, d'experts, qui depuis cet événement travaillent activement à savoir ce qu'il s'est passé et qui d'ailleurs depuis déjà longtemps investissent dans les couloirs et les arrière-fonds du gouvernement américain et de la démocratie, entre guillemets, américaine. Entre autres, elle avait dans son équipe des ex-agents de la CIA qui, soit, le jour où ils ont réalisé à quel point ils étaient dupés, si on peut appeler ça dupé, ça c'est sa façon de parler, nous on dirait, ont peut-être tout simplement ouvert les yeux un jour, ont réalisé qu'ils avaient été parfois responsables de la mort de milliers de personnes, que ce soit en Angola, au Vietnam ou n'importe où, dans tous les pays, au Chili, où sont intervenus les États-Unis. Et tous ces gens, depuis qu'ils sont sortis de la CIA, ont décidé de consacrer leur vie quasiment à mettre fin aux activités de la CIA. Alors elle a réuni tous ces gens qui parfois étaient en prison, elle vous le dira tout à l'heure, des gens qui risquent leur vie entre autres à cause de ce qu'ils ont dit. L'histoire du début du film est assez rigolote d'ailleurs, parce qu'un jour elle entend à la télévision qu'une maison de production de vidéos va sortir une cassette qui relate les auditions d'Oliver Knowles, peut-être vous rappelez-vous qui est ce personnage, qui est membre de la CIA, sur lequel Reagan a fait tout retomber la responsabilité de l'Iron Gate. Alors elle prend son téléphone, ni une ni deux, elle téléphone au producteur de la maison en question et lui dit « Sachez que chaque cassette que vous vendrez de témoignages des entretiens d'Oliver Knowles, ce sera... des dizaines de civils morts sur la conscience que vous aurez. Parce que tout le monde va croire ce qu'il dit, et si tout le monde croit ce qu'il dit, on va renvoyer de l'argent aux Contras pour lutter contre le Nicaragua. Alors moi, je vous propose en échange 40 000 $ avec des interviews au Nicaragua, au Costa Rica, en Iran, partout aux États-Unis, pour vous montrer les dessous de cette affaire. » Et à sa grande surprise, le lendemain, la maison de production en question lui dit « OK ». Et elle a ses 40 000 francs pour commencer son enquête. Ça coûtera plus que 40 000 francs, mais en tout cas, elle démarre tout de suite. Et alors, elle est très fière de cela. Elle dit, en tout cas, notre rôle à nous n'a pas été vraiment d'investiguer. On s'est appuyé sur toutes les recherches nombreuses qu'avaient fait les gens. Mais nous avons en tout cas, et elle en est très fière, réussi à réunir dans un joli et simple petit film d'1h20, dit-elle, si je traduis ses propos mot à mot, un film très clair, très net et qui dit clairement ce qu'il a à dire sur cette affaire de corruption monstrueuse aux États-Unis et qui remet fortement en cause à tous les points de vue la démocratie américaine. Alors, est-ce qu'on prend des risques lorsqu'on fait un film comme celui-là? Eh bien, Barbara Trent nous répond à cette question. Elle a eu des problèmes au Costa Rica, où après avoir interviewé un des personnages les plus impliqués dans la vente d'armes et qu'il échangeait contre de la cocaïne qui était revendue aux États-Unis, qui s'appelle John Hall, ils se sont fait arrêter. Un des producteurs a été lui-même kidnappé par une bande armée et elle a dû quitter très rapidement le Costa Rica. Mais elle dit, nous-mêmes, nous ne sommes pas menacés.
I had no way to reach him. I just had to wait till he got back for us to get out.
J'arrivais pas, je pouvais pas le contacter pendant qu'on a eu ces problèmes, et tout ce que je pouvais lui dire, c'était d'attendre qu'on vienne.
And we're not a serious target because our information is all second-hand. The people in the film.
En ce qui concerne les menaces éventuelles, nous, on n'est pas la cible principale. On n'a pas grand-chose à craindre parce qu'on détient nos informations d'une tierce personne. C'est, on les détient des gens qui sont dans le film.
The people in the film who are already famous are safe. The people who are in prisons, if they ever get out, would be dead instantly, and they'll probably be hit while they're in prison.
Les gens qui sont connus, eux, sont d'une certaine façon en sécurité. Ceux qui sont en prison et qui ne sont pas connus, et s'ils sortaient de prison, seraient tués aussitôt.
Elle dit même, ce qui n'est pas traduit, qu'ils risquent fort d'être même tués en prison. Alors, comment ce film a été accueilli aux États-Unis? Il a été vu dans quasi 70 salles de cinéma, suivi chaque fois d'un débat. Et elle a réussi à cette occasion de réunir de l'argent qui lui a permis de transformer, de copier le film en vidéo et de le faire distribuer sous forme de cassette vidéo. Et elle nous a fait fortement remarquer qu'il ne faut pas croire qu'aux États-Unis, il n'y a que des imbéciles qui regardent la télévision et qui votent pour Reagan, mais qu'il se trouve qu'heureusement, de plus en plus, et on vous en redira quelques notes sur la question tout à l'heure, il se trouve de plus en plus des gens qui s'opposent au gouvernement américain. Mais à cause des problèmes d'information, on sait que très rarement que ce mouvement d'opposition existe. Elle nous a encore dit qu'elle venait d'apprendre, la veille même, lorsqu'on lui a d'ailleurs dit qu'elle avait reçu le prix du public pour son long métrage, que la chaîne publique américaine, la PBS, avait... d'abord dit non, puis ensuite venait de lui dire oui à la diffusion de son film, mais, et attention au mais, qu'ils étaient prêts à leur payer beaucoup, beaucoup, beaucoup de dollars, mais à condition qu'ils remontent, eux, le film en coupant les extraits qu'ils leur indiqueraient. Et de faire un immense bras de fer à cette proposition et de dire « c'est un nouveau scandale qui est écrit chaque ligne de ce qu'ils nous proposent et nous allons continuer notre travail pour dénoncer cette histoire ». Le jour de la distribution des prix, Marianne, on a fait une rencontre fantastique dans le couloir, juste une demi-heure avant, et on s'est précipité dessus, il faut reconnaître.
Il faut reconnaître, et oui, et c'était Hélène Roussel et Didier Gabilly, qui sont les interprètes du violoncelle, le film de Pascaline Simard, qui a été primé par les jeunes comédiennes. Alors bon, là, faut dire qu'on était un peu prise de court, alors ça, on l'avoue, on a sauté sur notre magnéto. Et alors, on a demandé justement à Hélène Roussel quel effet, qu'est-ce qu'elle ressentait d'avoir reçu, enfin, par l'intermédiaire du prix, l'attention des jeunes comédiennes.
Je suis très, très heureuse que Pascaline ait reçu ce prix, parce que c'est un film que j'adore et qui a beaucoup de sensibilité. On a eu un plaisir fou à travailler ensemble. Et je suis d'autant plus touchée que ce soit des jeunes comédiennes qui aient décerné ce prix. Le film parle de deux femmes vieillissantes et elles ont compris, malgré leur jeune âge, tout ce qui pouvait se passer dans ces deux êtres vieillissants et malades. Et c'est une chose qui m'a profondément touchée. Dieu merci, il existe des festivals pour les femmes et pour les courts-métrages. que malheureusement, on ne voit pas dans les salles. Et ça, je trouve ça dramatique, monstrueux. Dieu merci, le Festival de Créteil fait vivre, fait naître et vivre ces films qui sont le cinéma de demain, tout de suite, demain.
Vous avez travaillé coup sur coup avec deux réalisatrices, Anne-Marie Mieville et Pascaline Semain. Pour vous, c'était un choix particulier de travailler avec elles. En plus, vous parlez des courts-métrages. Anne-Marie Mieville a souvent fait que des courts-métrages. C'était son premier long-métrage, donc c'était aussi un pas supplémentaire. C'était une façon d'encourager cette démarche aussi ?
Oui, c'est surtout elle qui m'a encouragée, vous savez. C'est elle qui m'a choisie et ça a été un grand bonheur. Anne-Marie Mieville, c'est un personnage fabuleux, enfin, elle dirige merveilleusement. Bon, c'est une grande aventure pour moi, mais c'est moi qui l'ai suivie. Ça a été une grande chance pour moi.
Vous sentez une différence quand vous travaillez avec une réalisatrice ou avec un réalisateur ? Ça change dans la manière de diriger les acteurs, de faire traverser un certain nombre d'idées ?
Entre femmes, c'est vrai qu'il y a une douceur, une sensibilité dans l'approche du travail. Avec Marie-Mieville, c'était par petites touches comme ça, très, très, très délicate, où on se sentait complètement en confiance. Et avec Pascaline, ça a été merveilleux aussi. On parlait beaucoup avant, elle nous parlait beaucoup du personnage. Aussi avec une grande douceur, mais avec une personnalité différente. Vous savez, on ne peut pas raconter ça. Ce sont des choses qu'on vit sur le plateau.
Et pour vous, c'est important d'interpréter des rôles où on parle vraiment de sensibilité. Bon, ben là, dans le dernier, le violoncelle, c'était entre deux femmes, leur amitié dans l'autre.
C'est sûr que les rapports entre les êtres, c'est une des choses qui m'intéresse le plus à jouer. Les rapports très, très profonds, le non-dit... C'est vraiment, et au cinéma, enfin, on peut travailler comme ça en gros plan, aller jusqu'au fond, des êtres, au travers de la peau, au travers du grain de peau, au travers d'un regard ou d'un sourire. Oui, oui, c'est une chose qui me passionne.
Voilà, c'était Hélène Roussel et avec elle, il y avait Didier Gabilly qui a participé comme co-scénariste, comédien et co-dialoguiste justement à la réalisation de ce film qui s'appelle Le violoncelle. Alors à lui, on lui a demandé s'il avait eu l'impression d'être au service de Pascaline Simard.
Mon premier travail, ça a été d'être à son service. Et on a passé 6 mois d'abord, on a traversé tous les orages de la préparation d'un court-métrage, et c'est difficile, c'était normalement à 52 minutes au départ, on l'a réduit en 26, c'est dur, c'est surtout là que je suis intervenu, c'est-à-dire lui disant allez, ça sera bien quand même, je crois que quand on s'entend, on est plus qu'au service, enfin, on est... Mais c'était l'histoire de Pascaline tout le temps, je veux dire, ça a toujours été ça, c'était son film... Sa distribution, ses dialogues, sa façon de filmer, c'était vraiment un film de femmes.
Vous qui collaborez donc beaucoup avec des femmes, ça vous semble juste qu'elles se réunissent dans un lieu privilégié comme celui du Festival de Créteil ? C'est-à-dire que contrairement à beaucoup de gens qui disent « mais qu'est-ce que ça veut dire se réunir encore comme femmes ? Pourquoi passer des films que de femmes ?»
Moi, je trouve une chose. Je trouve qu'il y a deux festivals qui doivent exister avant tout. C'est le Festival du cinéma du réel et le Festival de films de femmes. Pour des raisons qui tiennent tout simplement, j'avais pas du romantisme, c'est pas vrai, mais quand même quelque chose qui fait que le cinéma des réalisatrices est moins reconnu que le cinéma des réalisateurs, bon, pour des raisons que je trouve absolument abominables, et que de l'autre côté, c'est comme le cinéma du réel, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler le cinéma de documentaire, du quotidien comme ça, tout simplement parce que c'est des cinémas qui sont fondamentaux. Alors ce que je trouve en plus extraordinaire au Festival de films de femmes, c'est que c'est pas un ghetto, d'abord, parce que moi je me souviens des premiers où c'était un peu dur, quelquefois, quand on était un mec. J'en ai vu deux, moi j'ai vu les deux premiers quand c'était encore à Sceaux. Et c'était un peu dur, je trouve que c'est bien que ça soit élargi comme ça, que les choses soient plus... Et puis de l'autre côté, je trouve que ça serait faire une grosse erreur que de dire que, tout d'un coup, parce que le cinéma féminin, c'est vrai que là il y a Mieville, puis il commence à y avoir des réalisatrices, Colline Serrault, etc., qui font parler d'elle, mais ça serait faux de dire que le cinéma féminin est plus est l'égal du cinéma masculin. Je parle au sens de la production politique, c'est pas vrai, c'est bien plus difficile. C'est plus difficile pour Pascaline d'aller discuter avec un producteur que pour un mec, c'est évident, c'est l'évidence même. Là, on est en train d'en préparer un second, et c'est très dur, c'est un film sur l'avortement, en plus, c'est plus un sujet à la mode. Bon, et on sent que les problèmes sont pas les mêmes d'une façon ou d'une autre, même en dehors de la qualité même, je veux dire, à qualité égale.
Et voilà qu'à un moment du festival, tout d'un coup, moi en tout cas, j'ai été très émue, mais je ne suis sûre que je n'étais pas la seule du reste, puisqu'il y avait une invitée, une grande invitée en cette fin de semaine au festival de films de femmes de Créteil. Et cette grande invitée, c'était Angela Davis.
Alors, Angela Davis, moi je l'avais vue il y a très très longtemps aux États-Unis, puis c'était en 69-70. À ce moment-là, enfin je ne l'avais pas vue d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, elle était en prison. Emprisonnée pour participer au Parti communiste interdit aux États-Unis, comme vous le savez, emprisonnée pour sa lutte aux côtés des Noirs du mouvement noir qui luttaient pour leurs droits civiques.
Et moi, Angela Davis, je ne l'avais jamais vue. Alors, tout émue, j'ai regardé Angela Davis, je l'ai écoutée. Je dois dire que, comme vous le verrez, à la fin de la soirée, à la toute fin de la soirée, c'était déjà le lendemain matin. Presque, j'étais déjà moins émue par Angela Davis et plus réticente. Mais enfin là, tout de suite, elle a fait d'abord une intervention à propos des films de femmes dont nous vous proposons un extrait.
Je voulais juste vous dire, pour que vous l'imaginiez, elle ne porte plus sa coiffure afro et ses lunettes comme nous la connaissions autrefois. Mais maintenant, elle a changé de pays. Elle soutient dans sa coiffure les femmes jamaïcaines puisqu'elle porte des longues, petits, comment on pourrait appeler ça, tournicotis de cheveux magnifiques. En tout cas, dans son allure, elle a bien changé, comme murmuraient les gens dans la foule. On ne
qui étaient venus nombreux pour la voir.
In order to support my sisters who are bringing a new vision, a new image to the screen.
Mais je suis ici pour soutenir mes sœurs qui apportent une nouvelle vision, une nouvelle image à l'écran.
And I want to talk in particular about the historical conditions, the socio-historical conditions which have served as the context within which Black women filmmakers, particularly in the United States, are creating today.
Et je voudrais parler des conditions socio-historiques qui ont formé le contexte dans lequel les réalisatrices noires peuvent créer aujourd'hui.
And of course, art is always related to the prevailing social, economic, and political conditions.
L'art est toujours relié aux conditions politiques et socio-économiques.
And what we have seen this evening is the work of a group of women who are trying to transform our way of looking at the prevailing realities.
Et ce que nous avons vu ce soir, c'est le travail de femmes qui essaient de changer notre façon de voir la réalité.
And their work has a relationship, particularly in the United States, with what has been going on over the last decade.
Et leur travail est relié à ce qui se passe, surtout aux États-Unis, depuis la dernière décennie.
And I don't think it is accidental that we see the emergence of a black women's cinema, particularly at a time when we have been challenging the efforts of the administration of Ronald Reagan and George Bush to cancel, to annihilate the victories that we have won in fighting for our civil rights and fighting for our rights as women.
Et je pense que ce n'est pas une coïncidence que ce travail arrive au moment où l'administration de Ronald Reagan et de Bush essaie d'annihiler les victoires que nous avons déjà gagnées.
And the perspective of the black women who are organizing within the context of the women's movement.
Et la perspective de femmes noires s'organisant à l'intérieur dans le contexte du mouvement des femmes.
Is that to develop our vision as black women, as workers, as racially oppressed people, as people who are oppressed because of our gender,
et que pour développer une vision de femme, notre vision de femme en tant que travailleuse, en tant que femme, en tant que personne qui ont été opprimées du point de vue de notre sexe et de notre race,
is to present a vision which can have the effect of transforming in a revolutionary way the way that the entire population looks at the world.
C'est qu'il faut développer une vision qui ait le pouvoir de transformer de manière radicale la manière dont une population entière nous regarde.
And I think that you have seen this evening in watching the films that these women are forcing you to look at realities that you have taken for granted from a completely different perspective.
Je pense que vous avez vu dans les films qu'on vous a présentés ce soir comment ces femmes vous forcent à regarder une réalité que vous teniez pour acquise de manière complètement différente ce soir.
Voilà, c'était Angela Davis. Et Angela Davis qui participait au débat organisé autour des films de la section femme...
Image de femme noire.
Voilà. Image de femme noire.
Alors, pendant qu'elle était là, après elle, se sont exprimées toutes les réalisatrices qui venaient de différents horizons. Il y avait, tout à l'heure, on vous l'a dit, par exemple, Maureen Blackwood, qui a gagné un prix pour son court-métrage Perfect Image, qui, elle, vient d'Angleterre. Il y avait une femme qui venait de l'île de la Réunion, qui était très enthousiaste parce qu'elle disait, pour la première fois, je peux être à la fois noire et femme, ce qui était une chose fabuleuse pour elle. Et il y avait une femme des Antilles, il y avait une femme de... Mon Dieu, tu te souviens de toutes les femmes, Marianne, encore ?
Oui, il y avait une Jamaïcaine.
Oui, la Jamaïcaine.
Il y avait une Jamaïcaine, il y avait une autre Antillaise, mais établie à Paris.
Et puis, Sénégalaise, non, il me semble ?
Il y avait une femme de la République centrafricaine.
Ce
qui était assez intéressant dans ce débat, c'était dans leur prise de conscience à elles, ce qu'elles disaient, c'est qu'en Angleterre, par exemple, elles avaient formé des groupes dans lesquels elles arrivaient à réaliser des films.
Alors que, semble-t-il, les femmes noires en France ont beaucoup plus de difficultés, mais ça tient visiblement aussi à la question de comment les Noirs en France vivent leur négritude et se reconnaissent comme Noirs et s'organisent pour être comme Noirs. Et ça a fait l'objet de beaucoup d'échanges entre le public qui était là réuni et ces femmes.
Tout a été très bien et était très intéressant jusqu'à un moment où une des femmes présentes sur le podium a parlé de nouveau du fait que l'ensemble, enfin une grande partie des films de femmes noires ont été projetés dans une salle de cinéma La Lucarne qui ne se trouve pas à Créteil, au centre même d'où se passait le festival, mais il fallait prendre un bus pour s'y rendre. Ils ont dit, alors si vous nous faites venir, pourquoi de nouveau vous nous faites venir par la petite porte.
Et là, il s'est passé un incident un peu étrange. Devant cette accusation assez lourde portée aux organisatrices, cela dit, la chose était déjà sortie pendant la semaine. Par exemple, j'avais déjà entendu le vendredi, lors d'un débat entre les organisatrices et le public, cette question était déjà sortie. Les organisatrices s'étaient déjà expliquées. C'était surtout pour des raisons techniques. Mais tout à coup, Angela Davis a emboîté le pas à cette discussion. Et ni plus ni moins, a accusé les organisatrices de racisme. Et ça, je dois dire qu'il y a beaucoup de femmes qui ont encaissé cette accusation avec une sorte de « dans l'estomac, parce qu'évidemment, on a peine à croire que des femmes réunies entre elles puissent être racistes l'une envers l'autre. Et c'est d'ailleurs ce qu'a tenté d'exprimer une des organisatrices du festival, Elisabeth Trélat.
C'est tout d'un coup le sentiment, et je comprends, que je suis comme un mec, et j'ai l'impression que vous ressentez ce que moi je ressens, vous ressentez par rapport à nous, femmes blanches, ce que moi je ressens dans les festivals qui sont dirigés uniquement par les hommes. Et j'avoue honnêtement que je n'avais pas mesuré que la différence était à ce point importante. Je pensais que la sororité entre femmes était plus forte que la dissemblance de race. Mais donc, là, je suis en train de mesurer l'ampleur du problème. Je souhaite vraiment pouvoir en discuter très honnêtement, mais il y a une chose, je n'ai pas envie de me sentir coupable sur la façon dont j'organise ce festival.
Alors, à la suite de ça, des femmes noires se sont encore exprimées et vraisemblablement la seule qui pouvait, qui avait mis de l'huile sur le feu comme les autres, qui pouvait calmer l'assemblée et dire bonne nuit à tout le monde car il était déjà 1h30 du matin, c'était Sister Angela Davis.
It's probably the first time in the history of filmmaking that such a dialogue has been able to take place.
C'est probablement la première fois dans l'histoire de la réalisation, dans l'histoire du cinéma, qu'un tel dialogue peut avoir lieu.
And that's very exciting.
Et c'est absolument fantastique, enthousiasmant.
What Black women's filmmaking is about is teaching us how we can celebrate our differences, how we can be proud of our differences.
Et les films noirs, les films de femmes noires que nous avons vus, nous enseignent comment on peut être fier de nos différences, comment on peut célébrer ces différences.
And we shouldn't be upset that there are contradictions between us.
Et il ne faut pas s'en faire qu'il y ait des contradictions entre nous.
Contradictions can be very creative.
Cela dit en passant, c'est la musique de Anna et ses sœurs que vous entendez. Alors, dernière étape du festival de notre parcours, c'est d'avoir rencontré les deux organisatrices du festival. Je feuillette vite mon magnifique catalogue, qui sont Jackie Buette et Elisabeth Tréhard, comme vous venez de l'entendre. Alors, Jackie et Elisabeth, elles travaillent, je vous avertis, quasi 24 heures sur 24 pendant toute l'année, parce que contrairement à ce qu'on leur dit, mais qu'est-ce que vous faites en dehors du festival? Elles ont, je vous assure, rien le temps de faire en dehors du festival, si ce n'est de visionner pratiquement 600 films pour en sélectionner 120 et d'organiser avec une autre équipe toutes ces rencontres magnifiques auxquelles nous avons pu participer. Alors, pour commencer, je leur ai demandé, bien sûr, quelle était l'histoire du festival. Alors, l'histoire du festival de films de femmes n'est pas une idée nouvelle. Il y avait déjà eu un premier festival à Londres en 1928, mais qui a très vite disparu. Il y en a eu un autre à New York en 1972, qui lui aussi a disparu. Et il y a eu un premier festival en France en 1974 à Paris, où Elisabeth était allée en spectatrice. Il y en a eu un deuxième en 75, mais de 76 à 78, plus rien disparu. Parce que d'ailleurs, à cette époque-là, c'était un peu le moment où le mouvement de femmes était en train de disparaître en France, comme d'ailleurs aussi, mais cela dit, comme un peu tous les mouvements en politique étaient en train de perdre de leur énergie. Et puis alors, Jackie et Elisabeth ont eu envie de créer un nouveau festival de femmes à Sceaux, parce que c'était d'abord à Sceaux, puis ensuite qui déménagera à Créteil, et c'était en 1979.
L'idée a été de reprendre un festival de films de femmes, mais en le professionnalisant complètement, en faisant non plus un événement purement militant.
Lié au mouvement des femmes seulement.
Lié seulement au mouvement des femmes, mais en faisant un véritable événement culturel et surtout professionnel. La dimension professionnelle est très importante. Et qu'est-ce que ça voulait dire, professionnel? Ça voulait dire surtout choisir les films, faire une sélection très sérieuse en fonction de critères de qualité artistique, esthétique. Et ça a été la grande différence parce que le premier festival et Agnès Varda, qui en a fait partie, rappelle encore qu'à l'époque, eh bien, un film de femme devait être montré, quel qu'il soit, sous prétexte qu'il était fait par une femme. C'était le seul critère et ça suffisait. Et quand, avec Jackie, nous avons commencé, dès la première année, nous avons dit, eh bien, ça n'est plus suffisant. Il faut que non seulement ce soit un film réalisé par une femme, il faut que ce soit fait sur support 16 ou 35 mm, mais surtout il faut que ce soit un film de bonne qualité, un film qui ait des choses à dire et qui soit intéressant.
Nous on était assez inexpérimentés dans le domaine du cinéma, nous étions dans un centre culturel qui défendait la culture sous ses aspects à la fois théâtre, danse, musique. Donc le cinéma n'était pas vraiment notre milieu, mais nous l'avons découvert par les réalisatrices. Et n'ayant pas d'a priori sur cette profession, nous avons foncé sans même imaginer qu'il y avait tant de barrages. Mais nous connaissions ces films, nous savions qu'ils n'étaient pas distribués, et donc nous avions une grande naïveté de penser que créer un festival, ça résoudrait tous les problèmes. Mais cette naïveté nous a porté bonheur d'une certaine façon.
Alors le festival a déménagé, je vous l'ai dit, de Sceaux à Créteil au bout de 2 ans. Il a évolué. Imaginez, il y avait 20 films la première année, il y en a 150 cette année. Il y avait 3000 spectateurs la première année, il y en a eu 30 000 l'an passé. Cette année, on ne sait pas encore. Et chaque année, les organisatrices sont tentées d'aller un petit peu plus loin, de faire d'autres choses. Une année, on a essayé de rechercher les films réalisés par les pionnières du cinéma, on a cherché d'autres distributeurs, on a cherché un public nouveau. Et cette année, il y a aussi un autre enjeu.
Cette année, on a enregistré la demande qui était venue déjà antérieurement de jeunes professionnels des écoles et on a institué une nouvelle carte d'accréditation pour tous ces jeunes qui sont dans les écoles de cinéma, de théâtre, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel en général. Et c'est un succès extraordinaire parce qu'ils sont très très nombreux. Donc d'une certaine façon, pratiquement même sans en faire un enjeu dur et difficile à atteindre, on est dans une nouvelle étape, c'est-à-dire un élargissement du festival au niveau d'un public qui sera les professionnels du futur. Et pour nous, ça, c'est important, parce que d'une certaine façon, là, on joue l'enjeu futur du festival.
Et ce serait intéressant une année d'avoir des caméra-women, des monteuses films, des preneuses de son. C'est une de vos ambitions aussi, en faisant venir ces jeunes professionnels?
Oui, tout à fait, parce que j'ai beaucoup de demandes aussi, enfin, surtout l'an dernier, depuis l'arrivée des Soviétiques au Festival de Créteil, massivement l'année dernière, on a beaucoup de demandes du côté des scénaristes. Là, il y a des femmes intéressantes, et je crois que bon, dans l'avenir du festival, on peut songer à faire quelque chose sur cette dimension.
Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, une des tâches principales d'Elisabeth et de Jackie est de sélectionner les films qui vont être montrés lors du festival. Alors, ce travail de sélection est titanesque, si je peux employer ce mot, puisque, comme je vous l'ai dit, elles visionnent 600 films et finalement n'en choisissent, en tout cas, ce fut le cas cette année, que 150. Alors, comment cela se passe-t-il? Elles envoient pratiquement 6000 invitations à des réalisatrices, des attachés culturels, etc., etc. Elles ont même des correspondantes qui font une présélection. Pour elle, c'est le cas par exemple aux États-Unis, tellement la production de femmes est importante. Et finalement, les bulletins leur viennent en retour avec toutes les informations nécessaires à la compréhension de l'histoire et avec une cassette. Et alors, Jackie se met à leur fourneau, comme elles disent.
Et nos fourneaux, c'est un moniteur VHS et un moniteur U-matique. Et nous regardons toutes ces cassettes, souvent, généralement, enfin majoritairement, évidemment non sous-titrées en français. Alors vous nous imaginez avec un film tchécoslovaque dont nous avons le script en anglais et que nous regardons en essayant de voir si l'anglais correspond, si on est bien au bon moment. C'est pas évident à faire. Ce qui nous motive essentiellement, c'est bien entendu la qualité et l'originalité de l'écriture cinématographique et du sujet traité. Quand il y a les deux, bien sûr, pour nous, c'est évident, c'est presque, à la limite, on ne se pose pratiquement pas la question. Les films s'imposent tout seuls. Alors il y a par contre, après, il y a les films qui s'imposent, pour chacune d'entre nous, immédiatement à la première vision. Et puis, il y a un certain nombre de films sur lesquels nous nous posons des questions. Parce que le sujet est extrêmement intéressant, mais la facture peut être un peu maladroite, soit par jeunesse, inexpérience de la réalisatrice, soit par manque de moyens. Il y a souvent les deux qui se conjuguent aussi. Et puis, il y a d'autres fois, au contraire, où c'est des moyens qui sont là. On voit vraiment qu'il y a de l'argent, il y a une bonne direction d'acteur, mais un sujet un peu mince. Et là, à ce moment-là, eh bien, avec Jackie, sur ces films-là, on les met en discussion toutes les deux, on évalue. Et on essaie de faire que soit représenté le plus de pays possible. Ça aussi, c'est un critère.
Est-ce que les films doivent évoquer des préoccupations, des sujets concernant les femmes, ou est-ce qu'il suffit qu'ils soient réalisés par une femme?
Bon, il suffit qu'ils soient réalisés par une ou des femmes, ou même par un couple mixte. Mais je dirais que c'est pas si clair que ça. En fait, on s'aperçoit que, de fait,
quand on regarde ces 600 films, il y a un regard différent sur le monde de celui des films réalisés par des hommes. Ça, j'aimerais vraiment que d'autres que nous partagent cette expérience de visionner un très grand nombre de films de femmes pour voir que c'est systématique, qu'il n'y a aucun film qui exalte la violence pour la violence, qu'il n'y a aucun film avec des personnages à la Rambo, à la Delon, de héros positifs. Les femmes ne sont jamais du côté du plus fort, elles sont toujours du côté des plus faibles. Il y a un regard sur le monde qui est vraiment totalement différent, bien que maintenant, par rapport à il y a 10 ans, elles abordent tous les sujets possibles. Elles ne sont plus centrées sur des problèmes de femmes, plus du tout. Il y a des tas de sujets qui parlent, là cette année dans les documentaires, nous avons énormément de sujets qui sont très politiques et qui concernent les hommes beaucoup plus que les femmes. Parce qu'en fait, ce que font les femmes actuellement, c'est qu'elles commencent à interroger la politique faite par les hommes, parce qu'elles n'y sont pas représentées dans cette politique. Et ça, je trouve ça complètement passionnant de voir que, prenant la parole à travers le cinéma, elles sont en train de dire leur point de vue, qui est un point de vue différent et qui est un point de vue beaucoup plus critique sur les mécanismes de pouvoir.
Oui, bien sûr. Et il y a eu une autre discussion que ceux des mécanismes de pouvoir dans ce festival. Entre autres, une discussion autour de la signification de l'affiche du festival. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu deux débats qui ont été organisés entre les organisatrices et les spectateurs et spectatrices. C'était d'ailleurs extrêmement intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de questions posées aux organisatrices d'évaluation de ce que devient le festival. Entre autres, l'affiche, elle représente une femme assise devant une table avec plein de piles de films qui, d'ailleurs, enfin ça, les interprétations sont très différentes, je vais vous donner mon interprétation, a l'air d'être un peu un genre Orson Welles, comme ça, avec un gros cigare à la main. Et dessous, c'est marqué « Vous avez dit gonfler ». Alors, qu'est-ce que signifiait cette histoire pour les organisatrices du festival ?
Ce qu'on a toujours cherché à faire, c'est d'impliquer des gens déjà dans la profession qui visiblement ont moins de problèmes, qui ont un statut donc un peu plus stabilisé et reconnu au niveau en tout cas des médias de la profession, les impliquer dans une manifestation où les réalisatrices et les jeunes professionnels ont tout à faire, ont tout un chemin à faire. D'une certaine façon, on demande à celles qui sont un peu plus pourvues de moyens ou d'expérience d'être un soutien, de s'engager. Parce que si elles s'engagent, d'une part, ça valorisera la démarche qu'on est en train de développer et qui n'est pas reconnue par les médias. Et d'autre part, si elles s'engagent, derrière elles vont s'engager d'autres jeunes professionnels, parce que ce sera une image d'identification. Et je crois qu'on ne peut pas, de solidarité, l'identification. Je crois qu'on ne peut pas se passer de ce genre de, sans être des modèles, mais de dynamique.
Moi, je ne refuse pas l'idée qu'elles soient des modèles, Jackie, tu sais, parce que finalement, oui, ce dont les femmes ont manqué depuis des milliers d'années, c'est de modèles positifs dans l'histoire, à part Jeanne d'Arc. Franchement, on n'a pas eu grand-chose comme modèle positif. Et qu'il y ait des femmes aussi exceptionnelles que celles que tu as citées, Agnès Varda, Delphine Seyrig, Colline Serrault, qui sont quand même des femmes reconnues à la fois pour leur grande qualité professionnelle, mais aussi pour leur espèce d'intégrité morale. Je crois que ça va créer un mouvement dans toute une jeune génération qui est extrêmement importante. Et le festival lui-même, une de ses fonctions, c'est de servir, c'est de permettre aussi à un certain nombre de jeunes femmes et de femmes d'un âge certain également, de retrouver des images, des modèles positifs au cinéma. Parce que quand même, il ne faut pas oublier que le cinéma, c'est avant tout un art de l'identification. Hein. Quand on regarde un film, on s'identifie au personnage principal et ça, on ne peut pas empêcher ça. Ça fonctionne comme ça et ça fonctionne bien. Il se trouve que les films qui sont faits par des femmes présentent des modèles où elles peuvent se retrouver et finalement se retrouver avec une espèce de jubilation, de plaisir extraordinaire, parce qu'enfin elles ne sont plus ni victimes, ni faire valoir, elles existent comme en tant qu'être humain à part entière, et je crois que c'est ça le succès, à mon avis le succès du festival, il est vraiment majoritairement dû à ce phénomène de vrai plaisir que les femmes, le public femme trouve ici à se voir représenter beaucoup plus proche de la réalité en fait, et plus du tout dans des fantasmes masculins.
Je vous l'ai dit, dans ces discussions, on parle de beaucoup de choses et bien sûr, on a aussi évoqué la nécessité ou non de continuer à se réunir en tant que femme et de la nécessité de cette spécificité du Festival international de femmes. Alors, qu'en pensent elles, Elisabeth et Jackie, par rapport entre autres à l'avenir du festival ?
Le drame, c'est que nous sommes le seul événement en France, dans l'année où les femmes puissent prendre la parole. Et je crois que vous avez bien résumé, on cristallise toutes les demandes dans tous les sens.
C'est difficile d'y répondre. Et moi, je m'étonne encore de constater qu'on a pu tenir une certaine ligne directrice en répondant à certaines demandes, en retenant d'autres, justement, qui font que le festival a pu continuer. Et je crois que bon, c'est tout notre travail et celui-là, c'est-à-dire d'arriver à équilibrer des demandes très contradictoires, d'avoir élargi le programme suffisamment pour élargir aussi le public, sans pour autant sacrifier l'aspect femme comme bien souvent on nous l'aurait suggéré. Donc tenir le cap, ça c'est difficile, mais je crois que pour l'instant, bon,
vous en êtes toujours convaincu de ce cap.
On en est toujours convaincu, oui.
Moi, plus que jamais, plus que jamais, plus je vois de films réalisés par des femmes, plus je pense qu'il faut continuer à soutenir et à faire, en rassemblant ces films, un lieu d'interrogation sur ce que les femmes... Et à continuer à s'interroger sur est-ce qu'il y a vraiment une sous-culture, une culture différente des femmes.
Voilà, alors c'était notre présence au Festival international de films de femmes à Créteil, à Paris, où nous avons rencontré les femmes, peut-être pas forcément les vedettes, Colline Serrault et les autres, mais celles qui nous ont semblé donner cet aspect un peu spécial, spécifique du Festival de Créteil. Alors on vous y encourage l'année prochaine, consacrez un de vos week-ends à aller participer à ce festival. C'est très enrichissant, il y a des films superbes, mais on espère vivement que peut-être ces films seront distribués à Genève, qui sait.
Vous écoutiez Remue Ménage sur Radio Zone 93.8, votre radio préférée.